Okapi Service,
à votre service.
Bien, comment lutter efficacement contre la malnutrition en République démocratique du Congo? Vous savez, plusieurs provinces de la RDC sont touchées par la malnutrition. Selon l'enquête démographique et de santé EDES 2013-2014, la prévalence nationale de la malnutrition chronique est de 43% et de 8% pour la malnutrition aiguë sur l'ensemble du territoire national. Et cela a de multiples conséquences sur la santé des enfants, les laissant parfois avec des séquelles irréversibles. Cette situation est considérée comme une urgence qui mérite une attention particulière de tous les acteurs. Bien qu'il existe une politique nationale multisectorielle de nutrition, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre la malnutrition chronique en République démocratique du Congo? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec nos invités. Je commence avec Madame Viviane Malemba, qui est nutritionniste et chef de service de réhabilitation nutritionnelle au Pronanut. Madame Viviane, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons de la malnutrition. Quelle est la situation malnutrition aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Ok, merci. Ce que nous devons savoir, que la situation nutritionnelle dans le pays est vraiment alarmante. C'est ce qui donnerait vraiment comme cause, comme prévalence de la malnutrition. Si nous prenons la moyenne de la malnutrition en ce qui concerne la forme de la malnutrition aiguë, la prévalence de la malnutrition pour la moyenne est de 8%. Donc, en quelque sorte, on peut dire 7,9% selon l'EDES, l'enquête démographique de santé. Et il y a aussi notre forme de la malnutrition. Il y a la malnutrition qui est chronique ou les retards de croissance. La prévalence pour les retards de croissance est de 43%. Ça, c'est la moyenne du pays. Et aussi, nous avons l'insuffisance pondérale. En ce qui concerne l'insuffisance pondérale, la prévalence pour la moyenne du pays est de 24%. Et si nous pouvons voir par rapport à chaque province, par rapport à la malnutrition aiguë, dont la prévalence est de 7,9% ou soit 8%, les provinces les plus touchées sont, par exemple, il y a la province de Maniema, il y a la province de Maïndombe, il y a la province du Kwango, et aussi on peut s'ajouter à Kwilu, donc le grand Bandundu.
Et pourquoi aussi, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture là-bas?
Oui, aussi, c'est un problème aussi, mais aussi il y a l'utilisation aussi des aliments. Ça peut être disponible, mais l'accessibilité aussi pose un problème. Et aussi, ce n'est pas seulement aussi, comme on a dit, les causes de la malnutrition n'est pas seulement liées aux carences ou au manque. Il y a aussi des maladies qui peuvent aussi faire que les enfants ou les personnes ou la population qui vivent dans ces contrées puissent aussi présenter la malnutrition. Et nous avons aussi les grands Kasaï. Il y a aussi les grands Kasaï qui sont beaucoup plus aussi touchés par rapport à la malnutrition aiguë. La malnutrition chronique, ça c'est vraiment un autre champ de bataille aussi. Par rapport à la malnutrition chronique, comme on a dit, la moyenne est de 43%. Les provinces les plus touchées, ce sont les provinces du sud. Donc l'axe sud.
Mais quelle est la différence que vous faites entre la malnutrition aiguë et la malnutrition chronique?
Ok. Lorsqu'on parle de la malnutrition aiguë, c'est-à-dire c'est une malnutrition qu'on appelle maigreur. Maigreur, c'est-à-dire c'est une malnutrition qui survient brutalement suite à une situation qui peut être soit à une infection, à une maladie, ou soit aussi à un apport alimentaire qui est insuffisant pour couvrir les besoins d'une personne. Contrairement à la malnutrition qui est un retard de croissance ou la malnutrition chronique. La malnutrition chronique, elle, c'est une malnutrition qui dure plus longtemps dans l'organisme d'un enfant.
L'enfant ne grandit pas très bien.
Donc il y a l'accumulation même des carences. L'accumulation, ça peut être des macronutriments, ça peut être des micronutriments. Macronutriments, ça peut être les lipides, les protéines, ça peut être aussi en énergie aussi. Et les micronutriments, ça peut être les sels, tout, les sels minéraux, ça peut être aussi les vitamines. Donc, il y a cet enfant-là ou cette personne-là a accumulé cette perte-là, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Et cela entraîne comme conséquence une malnutrition qui est chronique ou un retard de croissance.
D'accord, je vais donner la parole à Madame Patricia Kiyé. Elle est chargée des urgences nutritionnelles à l'UNICEF RDC. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons identifier, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier la malnutrition aiguë? On en parle aujourd'hui, mais comment l'identifier?
Merci. Bon, il y a des signes cliniques. Des signes visibles qui permettent à déterminer un enfant qui est malnutri, notamment comme Maman Viviane venait de le dire, il y a la maigreur, vous trouvez les cheveux de l'enfant qui deviennent roux, L'enfant est
maigreur avec un ventre.
Ventre ballonné.
Ballonné.
Vous voyez les pieds, les jambes, les mains et même les paupières gonflées. Et toutes ces mesures-là, ces paramètres sont confirmés par les mesures du corps. Donc, c'est-à-dire, on amène l'enfant au centre de santé, on va prélever son poids, on va mesurer la circonférence de son bras et on va prendre aussi sa taille et on va rechercher les œdèmes au niveau des deux pieds ou au niveau des deux jambes. Alors, cela confirme si l'enfant est réellement dans l'état de malnutrition aiguë ou pas.
Donc, mais ça va demander d'abord un examen. Hein. Il faut un examen médical pour déterminer s'il s'agit d'une malnutrition chronique ou aiguë.
Pas un examen, comme on dit, parce que quand on entend examen dans notre langage, on sous-entend les analyses au laboratoire. Mmh. Mais ici, il s'agit de prendre les mesures par un infirmier, parce qu'au niveau communautaire, on a des agents communautaires qu'on appelle des relais communautaires, qui passent maison à maison pour pouvoir identifier des enfants qui présentent des signes dont j'ai cité précédemment. Voir un enfant qui est maigre, un enfant qui a des jambes gonflées, un enfant qui a des cheveux qui sont devenus roux, et il oriente vers la structure de santé. Et là, l'infirmier qui a été formé est outillé pour pouvoir prendre des mesures du corps, des mesures anthropométriques, pour pouvoir déterminer. Donc, il va considérer le poids de l'enfant par rapport à sa taille et puis va mesurer même la circonférence du bras et cela lui permettrait de pouvoir déterminer que cet enfant est réellement dans l'état de malnutrition aiguë. Mmh. Parce qu'il y a des habitudes alimentaires aussi qui sont de facteurs à prendre en compte. Parce qu'il y a des coins où on interdit aux femmes enceintes, aux enfants de consommer les œufs, où les gens ne cultivent pas ou ne consomment pas les maïs cultivés, tout ce qui est produit, ils utilisent ça pour la fabrication de l'alcool local, alors que ça devrait servir à l'alimentation et par conséquent les gens mangent le foufou sans maïs. Alors tous ces manques-là, donc ces habitudes acquises, ne sont pas favorables à la nutrition et par conséquent il peut avoir la production, mais quand les gens ne consomment pas tout ce qu'ils produisent, la conséquence directe est qu'ils exposent les enfants à la malnutrition aiguë.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lutter efficacement contre la malnutrition aiguë en RDC, Madame Viviane?
Pour lutter efficacement contre la malnutrition aiguë...
Entre-temps, préparez déjà vos questions. On va recueillir tout à l'heure les questions. Allez-y.
Oui, ok, merci. Pour lutter efficacement contre la malnutrition aiguë, il y a des stratégies que le ministère de la Santé... via son programme national de nutrition a mis en place. Et nous avons l'approche liée à la prévention et aussi l'approche ou les stratégies qui sont liées aussi directement pour l'attaque, donc les approches curatives. Pour prévenir la malnutrition, les stratégies du programme, nous avons une approche qu'on appelle la nutrition assise communautaire. La nutrition assise communautaire, c'est-à-dire dans la communauté, on est là. C'est important. Pourquoi? Parce que ça fait appel aux interventions qui sont promotionnelles, aux interventions qui sont préventives dans la communauté. Tous les agents communautaires, que ce soit les responsables des ménages, ils doivent être sensibilisés par rapport aux interventions de la nutrition. Nutrition, les interventions qui sont sensibles, qui sont d'abord spécifiques, c'est quoi? C'est la promotion de l'allaitement maternel, de 0 à 6 mois, de 6 jusqu'à 24 mois, la continuité de l'allaitement maternel et à 6 mois exactement, l'alimentation des compléments. Ça, c'est par rapport à l'allaitement maternel et l'alimentation des compléments. Ce sont des interventions que la communauté doit être sensibilisée et doit aussi promouvoir. Et en dehors de cela, nous avons aussi l'alimentation de la femme enceinte et l'alimentation de la femme allaitante. Une femme enceinte, elle est grosse, elle doit très bien manger. Le principe dit... Actuellement, avec la nutrition assise communautaire, une femme enceinte qui mange par qui a l'habitude de consommer, par exemple, 2 repas par jour, on doit ajouter à cette femme-là un autre repas de plus.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Sous vos applaudissements, nous sommes en direct de la salle de conférence de l'UNICEF ici à Kinshasa, le magazine Okapi Service. Nous parlons de comment lutter efficacement contre la malnutrition en RDC. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Voilà, des questions rapidement. Oui, monsieur, on vous appelle comment?
Merci pour la parole accordée. Je réponds au nom de Dieu, merci Lokenge. Je suis étudiant en G1A à l'UFASIC en journalisme. J'ai des questions à vous à poser à madame, comment, madame Viviane Malembe. Vous avez parlé des stratégies mises par le ministère de la Santé publique pour lutter efficacement contre la malnutrition. J'aimerais savoir, malgré toutes ces stratégies mises par le ministère, mais la malnutrition, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, à quoi ça nous a servi, ces stratégies mises par le ministère? Et puis, la deuxième question, c'est comment faire pour soigner la malnutrition? Par exemple, un enfant qui est atteint par la malnutrition, qu'est-ce qu'il doit faire pour soigner cette...
Je me présente au nom de M. Kassanga Mukendi,
okay.
Mec, activiste continental de l'environnement.
D'accord.
De l'Institut Wangari Maathai au Kenya. Et l'UNEA, United Nations Environment Action. Donc, je voulais seulement aider, j'ai senti les questions qui viennent. Je me dis, ne voyons-nous pas que le résultat de la malédiction et malnutrition congolaise se repose sur les fléaux de la guerre, la mauvaise gouvernance en place, qui avait pris des années. Et moi, je crois que la solution à cela, c'est peut-être... Moi, je travaille aussi avec la jeunesse d'INAJEC, qui est vraiment très active sur la place. Mm-hmm. Moi, je crois que le conseil que j'aimerais donner à la jeunesse, c'est vraiment de faire de votre mieux pour vous protéger contre la mauvaise gouvernance encore, et les fléaux de la guerre. Et
parce peut-être... que c'est ça, d'après vous, qui serait à la base de la malnutrition.
Oui. Parce que tout ça, si vous n'avez pas de bonne gouvernance, vous avez
si des guerres. Si vous n'avez pas de guerre. Temps,
donc vous n'avez pas le temps même de vous mettre dans l'ordre qu'il faut pour mettre l'agriculture en place, l'élevage, le ceci, cela. Ok, ça c'est mon conseil.
Merci bien.
Je m'appelle Patient Kongolo, étudiant en G1 à l'UFASIC. Le problème n'est pas lié juste au manque d'aliments. Les aliments sont là, mais si les aliments que nous mangeons ne sont pas nutritifs, ça ne servira à rien. Le problème est que nous devons savoir choisir quelle qualité de nourriture manger.
Généralement, qu'est-ce que nous mangeons, surtout nous étudiants à la fac?
À la fac, les spaghettis, c'est ce qu'on mange.
Avec souvent. La mayonnaise au-dessus.
Oui, avec la mayonnaise. Donc nous devons choisir les aliments qui sont nutritifs, qui sont riches en calcium, protéines pour notre santé. Parce que si nous ne choisissons pas les aliments qui ne sont pas nutritifs, nous risquons de tomber dans le même fléau de la malnutrition.
D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Y a-t-il d'autres questions? On peut prendre encore deux questions avant de donner la parole aux intervenantes. Oui.
Oui, je réponds au nom de Arnold Luleka. Je suis toujours étudiant de l'IFASIC.
On peut te voir.
Merci, je suis...
Voilà, c'est Arnold.
Oui, c'est Arnold.
D'accord, allez-y.
En fait, ce que je peux demander à nos mamans qui sont devant, c'est un peu de recadrer tout ce qu'il vient de nous dire, soit tout ce qu'il vient de nous expliquer, parce que moi-même, étant d'abord, moi-même qui suis dans la salle, j'ai peut-être du mal à comprendre, soit à saisir tout ce qu'on vient de nous expliquer. Et je pense d'ailleurs... Ça sera une mission c'est une mission qui est plus suivie. Et c'est pour cette raison que je demande, si toi, au moment de recadrer, soit à un mot, soit à un bref.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? En fait, allez-y directement, comme ça, elles vont bien.
Exact. Oui. Ça concerne d'abord comment lutter contre la malnutrition. Et toutes ces questions qu'on a eu à poser, des facteurs qui sont à la base de tout ce qui sont liés, si on pourra recadrer juste à une, deux minutes. Ça pourra surtout nous aider. Merci.
D'accord. Une autre question avant de donner la parole aux intervenantes. Oui, on donne cette fois-ci à une dame.
Merci beaucoup pour la parole accordée. Je me nomme Noéline Bélé, étudiante à l'IFASIC. En fait, ma question était juste de savoir, vous avez parlé de la malnutrition en excès.
D'habitude, à ce que je sache, je peux remarquer que la malnutrition qui est plus redressée, c'est par rapport à la malnutrition par carence. Tandis qu'en excès, depuis en fait ma naissance, je peux dire, je n'ai jamais vu un programme mis en place pour recadrer ou redresser ce genre de malnutrition. Merci beaucoup.
Bien. Madame Viviane, vous avez la parole. Applaudissez, s'il vous plaît, pour toutes ces questions par rapport à la malnutrition.
La première question, c'était celle de savoir à quoi ça nous a servi, donc les stratégies mises en place par le ministère de la Santé via son programme national de nutrition. Jusqu'à présent, en tout cas, on dirait que ça n'a pas tellement servi le pays, parce que la malnutrition continue toujours à persister. C'est ça la question, n'est-ce pas? Oui, on dirait que c'est vraiment le pays, les stratégies ont beaucoup servi. Si vous regardez les prévalences depuis qu'on a commencé, nous prenons depuis 2001, par exemple, dont la prévalence de la malnutrition était aiguë, je parle d'aiguë, était dans plus de 20% de la prévalence. Et lorsqu'on a commencé à intégrer les stratégies de la mise en œuvre sur le terrain, au niveau des provinces, au niveau des zones de santé, d'abord commençant par les formations de prestataires qui s'en chargeaient de ces enfants-là, les suivis au niveau des structures, au niveau de la communauté, lorsqu'on a commencé à aussi à leur donner les intrants sur le terrain pour la prise en charge, en tout cas ça a beaucoup aidé. Et du point de vue prévention, il y a la promotion et la prévention des interventions qui sont vraiment spécifiques à la nutrition. On prend par exemple l'allaitement maternel optimal. Dans l'allaitement maternel optimal, nous avons la mise au sein dans l'air qui suit l'accouchement. C'est une intervention de lutte contre la malnutrition. Actuellement, les approches disent une femme qui met au monde directement, aussitôt accouchée, on doit lui remettre son enfant et cet enfant-là doit vivre, doit profiter des vertus de lait maternel.
Et on recommande l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois.
Jusqu'à 6 mois, c'est une grande intervention. Actuellement, la mise au sein dans l'air qui suit l'accouchement, la prévalence est de 52% ou 58%. Comme ça, des femmes qui ont commencé à appliquer la mise au sein dans l'air qui suit l'accouchement. De 0 à 6 mois, c'est là une belle intervention qui est l'allaitement maternel exclusif. La prévalence de la mise au sein avec l'EDES est de 48%. Il y a le nouveau EDES de l'année passée, on n'a pas encore publié, on est déjà dans les plus de 50% des femmes qui sont en train vraiment de combattre la malnutrition en acceptant la pratique de l'allaitement maternel pour pouvoir sauver les vies, des vies de leurs enfants. Et actuellement aussi, par rapport à ces stratégies, ça c'est l'ange, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui parle de l'allaitement, qui parle de l'alimentation des compléments. Nous avons la NAC, que je venais de dire, la nutrition assise communautaire, ça donne beaucoup plus l'accent sur la dynamique communautaire dans chaque communauté. Là où il y a les interventions de nutrition qu'on a formées, tout agent, tout parent, il doit avoir une notion de la nutrition.
Pourquoi qu'est-ce que les parents doivent concrètement donner à leurs enfants comme nourriture?
Comme nourriture.
Oui.
En tout cas,
oui. Pour lutter contre la malnutrition. Qu'est-ce qu'il faut manger? Parce que généralement, nous, on voit beaucoup plus la quantité plutôt que la qualité.
Bien manger et quand manger, cela signifie quoi? Vous devez savoir, actuellement, avec le programme national de nutrition, nous sommes en train de vulgariser des repas équilibrés à 4 étoiles. À 4 étoiles, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne normale, beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans, qui sont beaucoup plus concernés par la malnutrition sous toutes ses formes. Premièrement, la première étoile dans leur alimentation journalière de 24 heures, ils doivent être en possession d'une étoile. Une étoile, c'est tous les aliments, partout là où vous êtes dans vos contrées, qui, dès que la personne mange, ça doit lui apporter la calorie. C'est quoi? Ce sont des céréales, ce sont des tubercules, ça dépend de chaque contexte. Si vous consommez le foufou, si vous consommez les tubercules, les pommes de terre, ce sont des aliments. Donc, dès que vous les consommez, ça vous apporte de l'énergie, des calories. Deuxième étoile, ce sont des aliments. Dès que vous les consommez, ça vous apporte des protéines d'origine animale. Ça dépend de chaque contexte. Les viandes, les œufs, les chenilles, les sauterelles, les frétins, les ndakala, ainsi de suite. J'en passe. Troisième étoile, ce sont des aliments. Dès que vous les consommez, une personne les consomme bien sûr, ça lui apporte des protéines d'origine végétale. se présenter sous forme de graines ou de légumineuses, pas des légumes mais des légumineuses. Ce sont des graines de soja, ce sont des graines de maïs, de soja, je m'excuse, pas de maïs, ce sont des graines de courge, ce sont des arachides, ainsi de suite. Des wangila, haricots, ainsi de suite. Quatrième étoile sont des fruits, le groupe des fruits de protection, le groupe des fruits et le groupe de légumes. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas obligatoirement, essentiellement, qu'une personne doit dans un repas, doit, ces repas-là doivent constituer les aliments des 4 étoiles. C'est un repas de, ce sont les aliments des 24 heures. Si une personne le matin, si était en possession de 2 étoiles ou d'une étoile,
le soir, étoiles, il faut ajouter les 2 autres étoiles.
Avant de dormir, vous devez ajouter les 2 autres étoiles.
D'accord.
Pour faire l'équilibre alimentaire.
Madame Viviane, on va suivre Madame Patricia qui a aussi un complément par rapport à cela.
Oui, merci. Par rapport à la question que Dieu merci a posée, je voulais juste ajouter à ce que Maman Viviane a dit pour parler des stratégies de lutte contre la malnutrition mises en place. En fait, le gouvernement a mis en place des stratégies, comme l'expliquait Maman Viviane. Il y a la prévention, mais il y a aussi la prise en charge ou les traitements. Alors, dans la prévention, il faut que les gens qui sont affectés, qui souffrent, prennent conscience de l'existence même de la malnutrition. Parce que si les gens ne sont pas conscients que la malnutrition existe, ils ne feront rien. Dès qu'ils prennent conscience de l'existence de la malnutrition, il faut qu'ils soient informés des actions clés, des pratiques recommandées qu'ils doivent mettre en application pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Et c'est là qu'elle a parlé des communautés qui sont redynamisées, formées, sensibilisées, pour qu'ils prennent conscience du problème.
Est-ce que dans nos villages, nos mamans sont formées, par exemple dans la province du Maniema, où il y a un taux élevé de malnutrition, est-ce qu'il y a des formations au niveau communautaire?
Oui, au niveau de village ou au niveau des aires de santé ou des villages même, il y a des groupes qui sont formés, des personnes qui sont formées, des cellules d'animation communautaire qui sont installées où les gens sont formés pour qu'ils puissent d'abord identifier les problèmes de malnutrition qui existent dans leur communauté. Et lorsqu'ils arrivent à identifier ces problèmes, ils vont jusqu'à creuser pour voir quelles sont les causes de ces problèmes de malnutrition que nous rencontrons dans notre contrée. Et ils réfléchissent aussi sur quelles sont les activités que nous pouvons mettre en place pour pouvoir lutter contre ces problèmes-là. Ça, c'est le côté prévention. Mais il y a aussi, comme je disais, la malnutrition a des causes. Il y a la maladie, il y a aussi l'insécurité alimentaire. Ce sont des causes directes. Donc pour que quelqu'un tombe dans la malnutrition aiguë sévère, soit c'est la maladie qui occasionne cela, ou soit c'est le manque de nourriture. Donc il n'a pas de nourriture consommée pour pouvoir tomber dans la malnutrition. Alors, avec ces causes-là de maladie, elle a bien expliqué pour dire, quand les personnes sont informées, sensibilisées, ils vont mettre en place des actions. Dormir sous moustiquaire, se faire supplémenter en fer, avoir vitamine A, faire vacciner les enfants, juste pour éviter que les enfants tombent malades, de peur qu'ils tombent dans la malnutrition.
Vous avez suivi tout à l'heure, un monsieur a parlé de la mauvaise gouvernance, les guerres, et c'est également à la base de la malnutrition. Donc d'après lui, il faut bien gérer le pays, il faut éviter les guerres, et puis bon voilà, à ce moment-là, les enfants vont bien manger.
Oui, dans l'analyse des causes de la malnutrition, nous avons des causes directes qui sont vraiment, si vous ne faites pas, vous tombez dans la malnutrition. On a parlé des maladies et on a parlé de l'insécurité. Vous avez des causes qui viennent après. Pourquoi la maladie? Ce sont des causes sous-jacentes. Mais la guerre et la gouvernance, les politiques, les normes sociales, ce sont des causes fondamentales. Parce qu'il y a des normes sociales où on interdit la femme de manger les œufs, de manger, je ne sais pas, serpent, de manger je ne sais quoi. Ça, ce sont des normes sociales. Ce sont des causes fondamentales. Et c'est là que même des politiques entrent là-bas. Ce sont des causes fondamentales. qu'une mère qui a en face d'elle un enfant malnutri n'agit pas sur ça. Et là, c'est le gouvernement à un haut niveau où ils peuvent changer les normes sociales, changer des politiques, instaurer une bonne gouvernance pour pouvoir bouger les lignes de lutte contre la malnutrition.
Voilà. Madame Viviane, il y a eu une question. Malgré toutes les stratégies, ça ne marche pas. On a toujours un taux élevé des enfants malnutris à travers le pays. Pourquoi on n'arrive pas à lutter efficacement contre cela, Madame Viviane?
Oui, c'est ce que Patricia venait de dire. Ce sont vraiment des causes qui sont fondamentales.
Parlez un peu plus fort. Rapprochez le micro, s'il vous plaît.
Vraiment, les causes, cela est lié aux causes qui sont vraiment fondamentales. Parce que comme on a dit, comme on venait de le dire à l'introduction...
Micro, s'il vous plaît.
Comme on venait de le dire à l'introduction, que la situation nutritionnelle est vraiment alarmante dans le pays. Et pour sauver en santé publique, il y a vraiment des prévalences élevées. Mais maintenant, pour sauver, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous, au niveau des normes, au niveau national, c'est le niveau des normes, on a élaboré des stratégies et nous sommes sur le terrain dans des provinces pour pouvoir renforcer les capacités et si possible approvisionner. C'est grâce aux partenaires qui nous appuient en approvisionnement en intrants, surtout pour lutter contre la malnutrition aiguë. Donc nous allons expliquer cela, les aliments thérapeutiques au niveau des hôpitaux et ainsi qu'au niveau des centres de santé, des pimpinates, qui nous aident, les partenaires nous aident à pouvoir approvisionner les structures.
Parlez-nous un peu de cette pâte d'arachide qu'on utilise souvent pour guérir la malnutrition sévère.
Ok, malnutrition aiguë sévère. Dans la classification de la malnutrition aiguë sévère, et nous avons la malnutrition aiguë sévère avec complications, et nous avons aussi la malnutrition aiguë sévère sans complications. Sans complications, c'est-à-dire l'enfant présente la malnutrition, on a confirmé les mesures anthropométriques dans une structure de santé et c'est confirmé. Et cet enfant-là doit être soumis au traitement thérapeutique des pimpinates. Les pimpinates, malheureusement, bon, c'est audio, l'émission.
C'est une pâte d'arachide.
Une pâte d'arachide de 500 grammes, 92 grammes plutôt, et qui apporte en termes de kilocalories, 500 kilocalories, et aussi avec des protéines qui sont vraiment entre 12 à 15% des grammes de protéines, ainsi que des micronutriments, de tous les vitamines, des complexes vitamines, et aussi des sels minéraux. Et le pimpinat, c'est un aliment-médicament. Aliment-médicament. Donc, la base de la constitution du pimpinat, c'est vraiment constitué des pâtes d'arachide.
C'est ce qu'on appelle le mwamba ici.
Mwamba, mais qu'on a enrichi dans de complexes vitamines et sels minéraux. Mais un médicament. C'est un aliment, autrement dit. Et c'est vraiment.
Et ça se prend comment? Vous mettez dans un pain et vous donnez à l'enfant?
Et le pimpinat est donné que pour traiter ou pour soigner les enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère. Sévère, sans complications. Et vous voyez qu'avec la physiopathologie de la malnutrition, les organes, on peut parler de foie, on peut parler des reins, on peut parler de pancréas, sont endommagés par la malnutrition qui est sévère. Maintenant, l'aliment qui est thérapeutique, un médicament, qui viendra maintenant réhabiliter ou stabiliser cette pathologie-là qui est la malnutrition, c'est vraiment les pimpinates. Et il est décommandé ou déconseillé aux personnes qui sont vraiment normal, une personne qui est normale, c'est-à-dire en bon état nutritionnel, sanitaire, ne peut pas consommer cet aliment médicament-là. C'est, par exemple, une personne qui n'est pas malade...
Ne peut pas consommer cet aliment-là.
Qui n'est pas malade, on te donne, par exemple, l'aspirine. On te donne un médicament.
Donc, et pourtant, tu n'en as pas besoin.
Ça peut créer une intoxication.
Bien, on va recueillir d'autres questions. Je sais qu'il y a encore... Il y a aussi des étudiants... En nutrition qui sont là, merci de réagir pour poser vos questions.
Intoxication. Donc le pimpinat est recommandé aux enfants qui souffrent de la malnutrition, spécialement aux enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère sans complications. Tandis que pour les enfants, chez les enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère avec complications, leur prise en charge n'est pas dans les centres de santé, mais leur prise en charge c'est au niveau des hôpitaux ou dans un hôpital, dans les services de la pédiatrie. À ce moment-là, ça ne sera pas tellement les pimpinates, ça sera maintenant les laits thérapeutiques.
D'accord, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Viviane pour l'encourager? Au Capi Service, nous sommes à l'UNICEF, dans la salle de conférence de l'UNICEF. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la malnutrition. Alors, Madame Patricia Kiyé, vous avez su, Madame Viviane a parlé tout à l'heure du lait thérapeutique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, le lait, c'est le lait, comme nous entendons, un produit laitier. Et thérapeutique, c'est parce que ça traite. Ce n'est pas comme le lait que nous prenons d'ordinaire, mais c'est un lait qui est un médicament. Parce que ça contient à l'intérieur des nutriments ou des médicaments, de multivitamines qui permettent à ce que on puisse guérir les enfants. Alors nous avons des types de lait thérapeutique utilisés pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Nous avons le lait thérapeutique appelé F75 et nous avons le lait thérapeutique appelé F100. Le F65, c'est un lait qu'on donne à un enfant qui est malnutri aiguë sévère avec œdème, gonflement de pieds dont je parlais, gonflement de paupières, gonflement généralisé, qui a la malnutrition aiguë sévère au niveau de l'hôpital. On donne ce lait pour permettre à ce que tout l'eau accumulée là, dans l'espace extracellulaire, puisse se résorber. Parce que ce lait-là est faible en osmolarité. Excusez-moi des termes techniques, il y a quelqu'un qui a dit nous utilisons des termes techniques.
Oui, c'est mieux toujours d'expliquer.
Voilà. Ouais. On essaie d'être beaucoup plus...
plus simple pour plus permettre simple une bonne
pour
compréhension.
Plus simple pour permettre que nos amis puissent comprendre.
Oui.
Donc, ce lait-là, c'est trop faible en sel.
Les sels... Où est-ce qu'on peut trouver ce type de lait? Dans toutes les pharmacies?
Les laits ne sont pas vendus dans des pharmacies. Ces laits sont dotés uniquement par les partenaires. Et actuellement, 90% de ces produits, ou 99%, c'est doté par UNICEF avec l'appui de plusieurs partenaires. Et si vous me permettez de rebondir sur la question toujours de Dieu merci, parlant de comment soigner la malnutrition et pourquoi la stratégie n'aboutit pas. La deuxième stratégie que Maman Viviane avait évoquée, c'est par rapport à la prise en charge ou les traitements. Et pourquoi il y a toujours des cas de malnutrition? C'est parce que ces produits thérapeutiques qui sont donnés, les laits, le plein pinot ou la pâte d'arachide, là, sont faits exclusivement pour des personnes avec malnutrition aiguë sévère. Mais les combles, c'est quoi? Il y a certaines personnes en bonne santé qui les prennent, qui mangent. Imagine, on a 2000 enfants malnutris sévères qui attendent ces traitements et on envoie 2000 cartons de plein pinot pour soigner ces enfants, mais il y a 20 cartons que le ou 200 cartons que les personnes en bonne santé consomment. Ce qui fait que le nombre des enfants, ils seront toujours là. Et si c'était prévu pour traiter pendant telle période et que les personnes en bonne santé ont consommé, ça ne va pas permettre à ce que les enfants-là puissent continuer les traitements jusqu'à la fin pour qu'ils soient guéris.
Alors, les personnes en bonne santé, comment ils arrivent à consommer ce lait? Parce qu'ils n'ont pas d'information ou c'est... Parce que ces laits se retrouvent sur le marché, alors on va acheter.
On a dit que ces laits ne sont pas vendus dans des officines, dans des pharmacies, on n'en trouve pas. Ces laits sont au niveau des centres, des hôpitaux ou des bureaux centraux.
Donc on peut dire qu'il y a détournement à ce niveau-là. On a détourné les lots de lait destinés aux enfants malades.
Voilà, c'est lors du transport.
Lors du transport, voilà, de l'acheminement. Il y a des cartons qui disparaissent.
Il y a des cartons qui disparaissent. Alors nous devons, si nous voulons que cette stratégie puisse marcher, nous devons encourager à ce que tous ces aliments thérapeutiques soient utilisés uniquement pour les enfants malnutris aiguë sévère. Parce que l'autre conséquence, c'est quoi? Quand les partenaires qui a doté ces laits ou ces aliments thérapeutiques apprend que ces laits ont été utilisés ou ces plein pinot ont été utilisés par des personnes en bonne santé,
ça va les décourager.
Ça les décourage et par conséquent, il n'aura plus cette volonté de pouvoir
envoyer encore un autre lot de...
Envoyer. Et il y aura des ruptures.
D'accord.
Conséquence, les enfants continuent à être malnutris.
Bien, sous vos applaudissements au Capi Service. Nous sommes à l'UNICEF. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre la malnutrition. Alors, d'autres questions, on va recueillir la dernière série de questions avant de terminer cette émission. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, soyez rapide.
Ok. Je suis Sarah Dibassola. Oui. Membre de la DINAJEC.
Ma question, c'est quoi la DINAJEC?
Dynamique de jeunes, force et vive de la société civile pour
d'accord.
le changement. Ma DINAJEC. Question est celle-ci. Que fait l'UNICEF dans le cadre de financement de structures d'encadrement des enfants en situation difficile pour éradiquer la malnutrition? Le cas de l'AREM qui est une association pour la réinsertion des enfants et des élèves mères.
Est-ce qu'il y a des cas de malnutrition là-bas?
Oui, oui. Parce qu'il y a deux filles mères qui ont des enfants.
Qui ont des enfants et oui, des enfants et qui ne mangent pas bien.
Qui mangent pas bien, voilà.
D'accord.
Alors, nous aimerions savoir comment est-ce que l'UNICEF procède pour éradiquer cette malnutrition dans ces genres de structures.
D'accord. Merci bien. D'autres questions? Nous parlons de la malnutrition aujourd'hui dans Capi Service.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis étudiant à l'IFASIC de la promotion G1A. Madame, vous avez dit, Madame Vivienne, ma question se base à Madame Vivienne. Madame Vivienne, vous nous avez donné quelques signes qui nous permettront d'identifier une personne atteinte de la malnutrition. Et sur ce, il s'agissait de la maigreur avec un ventre ballonné, les jambes deviendront gonflées et les chevets deviendront également roux. Et avec l'aide de ça, j'aimerais savoir, est-ce mauvais de s'éloigner d'une personne qui est atteinte de la malnutrition, une fois qu'on voit ces différents signes se manifestent à une personne?
L'UNICEF, c'est quand même pas rien en fait. L'UNICEF, c'est pas rien. C'est une branche de l'ONU.
Mais on demande toujours aux gens, vous dormez sous la moustiquaire, mais il faut aussi assainir l'environnement.
Bien sûr, c'est un exemple terre à terre. Parce que si on éradique la saleté, on n'aura plus besoin de moustiquaire. Quand elle est en train de dire que les donateurs apportent des aliments,
les laits pour les enfants et les laits disparaissent.
Mais c'est qui ces gens qui sont en train d'acheminer jusqu'à la destination? C'est pas les membres de l'UNICEF? Où ils sont pas très bien organisés. C'est des questions que je suis en train de me poser, en fait. Ce sont des observations.
Oui.
L'UNICEF fait partie de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la mission...
Non, pas de la MONUSCO.
Enfin, de l'ONU.
Oui,
de l'ONU.
Des Nations Unies.
Voilà, des Nations Unies. Et on est tous sans ignorer que les Nations Unies, ce sont eux qui décident, les décideurs du monde, en fait. Pourquoi ne pas intégrer des gens pour qu'ils fassent à ce que... qu'il n'y ait plus de guerre, parce que... Tant qu'il y aura la guerre au pays, il y aura toujours la malnutrition. Ils vont faire l'effort et encore, ils n'auront pas de solution à leurs problèmes. Ou soit, c'est une manière de soutirer de l'argent, ou soit, je ne sais pas, parce que moi je trouve que ça n'a pas lieu d'être, en fait, c'est cette lutte, en fait.
Donc on n'arrivera jamais à éradiquer la malnutrition d'abord.
Jamais, tant qu'il y aura les guerres, tant qu'il y aura des personnes mal intentionnées,
tant qu'il y aura des gens qui font disparaître les cartons de l'air.
Parce que il faut quand même qu'il y ait une suivi. Parce que quand vous donnez des trucs à des gens pour acheminer, il faudra quand même qu'il y ait des gens sérieux pour acheminer jusqu'à destination.
Mais est-ce que là, c'est la faute du partenaire ou c'est la faute de
celui
qui...
C'est la faute de l'UNICEF.
C'est la corruption.
Voilà.
D'accord, merci. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions?
Merci pour la parole. J'aimerais dire à notre président de l'organisation qui venait de dire que ce que tu dis, mon frère, je pourrais dire que ces gens qui transportent comme les F100, les F75, peut-être, moi je dis, mon frère est chauffeur, ils peuvent amener jusqu'à la destination. Au moment où Azana ba petit meeting dans la yé. Tu vois, il arrive en cours de route, au lieu de transporter biloko au Essengeli pour les enfants, il donne maintenant l'engagement à une autre personne. Tu vois, ça sera un peu difficile où il dit, non, comme même si j'ai fait ça, j'ai un grand frère ou j'ai une grande sœur qui va me couvrir. Dites simplement vos arguments. Allez-y jusqu'à la personne qui est comme le président de l'UNICEF ou d'une organisation, voilà ce que nous sommes en train de constater ou de remarquer. Il y a ceci qui se passe. Les pamplinates ou les objets pour les enfants malnutris n'arrivent jamais. C'est ce qui se passe même dans des hôpitaux. Les stagiaires arrivent, on s'implante là, on ne sait pas comment faire parce qu'il y a une désorganisation que je peux dire au niveau supérieur jusqu'en bas. C'est ce que je voulais ajouter.
Merci, madame. Oui. On va recueillir encore une dame qui va poser une question ici. Nous parlons de la malnutrition, comment lutter contre cela. Oui.
Donc, merci pour la parole. Ce n'est pas une question. Je me présente, je suis Ruth Ntanga, étudiante en nutrition à l'ISTEM Kinshasa. Alors, je m'adressais juste aux amis qui disaient tout à l'heure que non, la lutte qu'on est en train de mener
est inutile.
Elle est inutile. Non. Je dirais ceci. Si on essaye de voir les actions menées depuis le début de ces programmes jusqu'à ces jours, il y a un changement. Je dirais que voilà, il y a même le taux de la malnutrition qui baisse. Si on regarde depuis 2001, le taux de la malnutrition aiguë n'est pas le même qu'à ces jours. Alors dire que cette lutte ne nous amène à rien, ce n'est pas bien dire. Et on pouvait plutôt encourager les efforts des organismes et tous les prestataires de bien continuer à mener le service. Merci.
Bien. Merci pour cette intervention. Y a-t-il d'autres questions par rapport à la malnutrition? Comment lutter efficacement? D'accord. On va donner la parole à nos intervenantes. Madame Patricia. Okay. D'accord, il n'y a pas de problème. On commence avec Madame Patricia et puis on va donner la parole à Madame Viviane.
Oui, merci beaucoup Sarah et puis les autres pour vos questions. Par rapport à UNICEF, UNICEF, ce n'est pas un partenaire de mise en œuvre. UNICEF, c'est une agence qui appuie les gouvernements de la République démocratique du Congo, je parle du Congo, pour pouvoir lutter contre la malnutrition. Comme UNICEF est c'est lui qui pousse la nutrition dans le monde. Il est là pour pouvoir appuyer les gouvernements congolais à pouvoir lutter contre la malnutrition. Et tout ce que UNICEF fournit, les intrants qu'il fournit de ses propres fonds, des fonds des autres bailleurs, il les donne au gouvernement. Et la personne qui était mieux placée pour répondre à ça, c'est Maman Viviane, parce qu'elle représente les gouvernements. Donc, UNICEF donne au gouvernement. Alors, le gouvernement, il met en œuvre les activités, parce que les structures de santé, les hôpitaux, ce ne sont pas les structures de santé d'UNICEF. UNICEF appuie les gouvernements. C'est pourquoi il y a un système que le gouvernement, avec l'appui d'UNICEF, on a mis en place pour pouvoir suivre l'utilisation des intrants, faire le suivi, ce qu'on appelle... excusez-moi du terme un peu difficile, la traçabilité, savoir les intrants ont été donnés, telle quantité, qu'est-ce qu'on en a fait, combien de personnes on en a pris, est-ce que c'est arrivé, oui. Et aussi demander à la communauté de pouvoir signaler quand ils remarquent une mauvaise utilisation de ces intrants-là. Donc, quand on est là, quand on est témoin d'une mauvaise utilisation de ces intrants, c'est important de pouvoir informer le gouvernement et pourquoi pas UNICEF. Et puis par rapport, vous avez dit, la lutte là ne sert à rien parce que les causes sont fondamentales. Je peux me réexpliquer rapidement. On a dit, la malnutrition, c'est comme l'étage. Nous sommes au sommet, conséquence malnutrition. Mais qu'est-ce qui a provoqué la malnutrition? On a parlé des deux causes directes. On a parlé de la maladie. On a parlé de l'insécurité alimentaire. Mais qu'est-ce qui a provoqué la maladie? On parle de l'insalubrité, on parle de manque de vaccination, on parle de l'absence même des services de soins. Ça, ce sont les causes qui sont liées, qui provoquent la maladie. Qu'est-ce qui a provoqué l'insécurité alimentaire? On peut parler de pauvreté, on peut parler de mauvaises techniques culturelles, on peut parler de la paresse. Qu'est-ce qui a provoqué ça? On peut parler, voilà, les gens n'ont pas de travail, c'est tout. Donc ce sont des causes en bas. La personne qui est atteinte là ne peut pas agir. Et là, c'est le gouvernement, ce sont des politiques qu'on doit changer pour permettre à ce qu'on puisse améliorer les sociales. Et ça, ce n'est pas UNICEF. UNICEF, là, il fait le plaidoyer au gouvernement pour dire voilà les causes, et voilà les conséquences si les actions ne sont pas menées.
D'accord. Il y a une question tout à l'heure par rapport au financement des filles mères qui ont des bébés. Voilà. Et puis, bon, est-ce que l'UNICEF finance des actions en leur faveur?
Oui, c'est la question de Rita, hein, je ne sais pas. De Sarah.
De Sarah, okay. Oui.
La question de Sarah, UNICEF travaille directement avec les gouvernements. Donc, UNICEF...
Pas avec des ONG, des organisations nationales?
UNICEF, d'abord, c'est les gouvernements. Mais il y a des partenaires qui sont membres du cluster nutrition à qui ils dotent aussi de moyens pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Donc, s'il y a une ONG qui a de l'expertise dans le domaine de prise en charge nutritionnelle ou de la prévention, toutes ces ONG sont le bienvenu, qu'elles soient internationales, qu'elles soient nationales. Donc, au niveau du cluster, on doit voir si l'ONG remplit les conditions, si elle a de l'expertise technique, il y a des gens qui comprennent bien la malnutrition, des moyens de lutte contre ça. Et s'ils demandent une subvention et que c'est possible, les fonds sont là, on dote pour qu'ils prennent en charge, mais il ne va pas le faire de façon isolée. Cette ONG va travailler en collaboration avec les gouvernements.
D'accord, merci bien. On va donner la parole à Madame Viviane. Il y a eu pas mal de questions auxquelles vous allez répondre.
Ma collègue venait aussi les ramasser. Il y a 2 ou 3 questions. Est-ce mauvais de s'éloigner de la question, est-ce mauvais de s'éloigner de la personne qui souffre de la malnutrition? Qui souffre de la malnutrition? Non, pas du tout. La malnutrition, ce n'est pas une maladie qui est contagieuse. Non. C'est comme une personne aussi qui souffre de paludisme. Une personne, c'est la même chose, qui souffre de la diarrhée qui est causée normalement par une pathologie quelconque. Ce n'est pas une maladie qui est contagieuse. Connaissant la cause de la malnutrition, nous avons vu avec vous, il y a 2 causes qui touchent directement la personne. Ça peut être lié au manque d'aliments, ça peut être lié à une maladie. Et si c'est soigné cette maladie, et que si on apporte des aliments qui sont suffisants en quantité et en qualité suffisante à la personne peut être directement réhabilitée. Donc il n'y a pas de souci de se dire que non, qu'il y ait la discrimination ou de s'éloigner de la personne qui souffre de la même malnutrition. Donc c'est une maladie comme toute autre maladie qui est vraiment guérissable, qu'on peut récupérer la personne. Et aussi la problématique des détournements des intrants nutritionnels que Patricia avait déjà parlé, c'est que je peux en tant que pronanite dire qu'il y a déjà un système, un circuit d'approvisionnement d'intrants qui existe dans le ministère de la Santé. Donc, en ce qui concerne les intrants nutritionnels...
Est-ce que vous avez déjà mis la main sur les détourneurs de lait?
Oui,
les a attrapés
Que ce soit pour les laits thérapeutiques, que ce soit pour les pains peanuts, qu'on donne la pâte d'arachide enrichie en médicaments. En tout cas, il y a vraiment un circuit d'approvisionnement.
Alors, on est arrivé à la fin de l'émission, Madame Viviane. En 2 mots, disons en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre la malnutrition?
Efficacement contre la malnutrition en RDC, nous devons savoir que réellement la malnutrition vit dans la communauté.
Quelles sont les bonnes pratiques à promouvoir?
Nous avons des interventions qui sont spécifiques et nous avons des interventions qui sont sensibles à la nutrition. Spécifiques sont des interventions qui sont beaucoup plus vraiment liées. Oui. Dans la communauté, tout patient qui remarque un enfant là qui souffre de la malnutrition, après avoir été dépisté par les relais communautaires, on doit orienter ces enfants-là beaucoup plus qui sont vulnérables au niveau des soins de santé pour être pris en charge. Et il n'y a pas, j'allais aussi dire ce qu'on allait peut-être mettre de côté, il y a aussi les aliments locaux que nous devons promouvoir. Au cas où il y a rupture d'intrants qui sont importés, les pimpinates ou les laits thérapeutiques, mais beaucoup plus dans les centres de santé, au cas où il n'y a pas de pimpinates, il y a des aliments alternatifs. Ce sont des aliments locaux qui sont enrichis en micronutriments, qu'on peut promouvoir riches en protéines, qu'on peut aussi donner à ces enfants-là pour réduire le taux de la malnutrition. Et aussi dénoncer tous les cas abusifs de ces aliments thérapeutiques. Donc, ceux qui volent, par exemple, celles qui veulent détourner les laits thérapeutiques qui sont importés, qui coûtent cher, en tout cas, vous devez vraiment les dénoncer en tant que journaliste pour qu'on puisse les arrêter.